Les jardinières.
C'est aujourd'hui le premier jour du printemps. Alors, si même par endroit, la neige est encore bien présente. Un peu de patience, hein, les beaux jours ne sont plus très loin. Et c'est parti pour une session jardinage d'une heure. Raphaël, bonjour.
Bonjour Mylène et bonjour à tout le monde.
Fabrice, bonjour.
Bonjour à tous.
Fabrice Rondet, vous êtes paysagiste et propriétaire de Fabrice Rondet SARL à Port-en-Truy. Vous êtes en notre compagnie durant une heure. Vous allez, entre autres, nous parler des biotopes.
Alors, à vous tous, merci d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre week-end. Bienvenue et surtout très bon réveil.
7h, 8h, les jardinières.
Dans quelques minutes, nous parlerons des temps, mais avant, Fabrice, c'est aujourd'hui le premier jour du printemps. Quelles sont les tâches à effectuer au potager ?
Bien, vu la météo qu'on a aujourd'hui, on ne va pas faire grand-chose, je pense, dehors. Il fait assez froid, il y a une petite bise, par endroits c'est gelé, c'est même un petit peu enneigé peut-être. Donc ce qu'on pourrait faire, peut-être se concentrer pour ceux qui font les semis, les repiquages, peut-être pour s'occuper de tous ces petits plantons, et puis de penser aussi à mettre les prochains semis en place pour être prêt pour cette mi-mai quand on va tout mettre en pleine terre.
Fabrice, j'ai lu quelque chose cette semaine, comme quoi c'était le dernier moment aussi pour, si on voulait avoir des jolis rosiers, c'était le dernier moment pour faire la taille.
Alors c'est peut-être pas vraiment le dernier moment, parce que ça dépend un petit peu de l'altitude où c'est qu'on va se situer. Ça va dépendre aussi peut-être si on est dans une situation bien exposée. Si on taille un rosier trop vite, on peut exciter un peu la végétation. Et puis s'il est rabattu maintenant, s'il y a un coup de froid comme on a l'habitude d'avoir sur la période d'avril, voire même début mai, on pourrait faire geler ces jaunes repousses qu'on a taillées à trois yeux. Donc je pense qu'on peut attendre encore peut-être début avril, mi-avril, pour voir la météo comme elle va se fixer.
Merci beaucoup Fabrice, vous êtes là ce matin avec nous pour répondre aux questions de nos auditeurs, et ça jusqu'à 8h. Voici comment les poser ces questions, vous le faites par téléphone ou au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous nous appelez, vous êtes en direct avec nous, vous posez votre question directement à Fabrice. Vous pouvez le faire par SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question. Vous nous envoyez ce message au 939, ou encore la troisième possibilité, c'est par le formulaire qui est disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et vous pouvez même y joindre une photo. Ça simplifiera le travail de notre spécialiste ce matin.
Dans quelques minutes, nous parlerons des temps, comment créer le vôtre dans le jardin et surtout comment l'entretenir.
7h, 8h, les jardinières.
Un étang de jardin est un biotope pour de nombreux animaux comme les grenouilles, les libellules ou les tritons. Une petite mare pleine de vie qui se laisse observer des heures durant. Fabrice Rondet, paysagiste, va nous expliquer comment mettre en place et entretenir un biotope. Alors Fabrice, créer un étang dans son jardin, est-ce à la portée de tout le monde ?
Oui, c'est à la portée de tout le monde à partir du moment donné où c'est qu'on aura fait un premier travail, c'est de se documenter un petit peu pour savoir peut-être l'équation juste à avoir entre la grandeur du bassin, pour pas qu'il se réchauffe de trop, pour que l'eau reste assez fraîche. Ça, c'est peut-être le premier point. Après, pour qu'on puisse mettre suffisamment de choses aussi pour se faire plaisir, pour avoir un maximum de biodiversité, qu'il soit au niveau de la faune, soit au niveau de la flore. Et puis après, qu'on ne regrette pas aussi de se dire, ben voilà, peut-être que si j'avais fait un tout petit peu plus grand, ce serait plus sympa. Donc d'avoir peut-être une bonne équation de nouveau entre la surface qu'on a et puis la surface qu'on voudrait créer à ce niveau-là. On a aussi pas que les temps qu'on peut prendre en compte, mais on a aussi ce qui est des berges, ce qui est un petit peu autour de l'étang pour le mettre en valeur, pour l'intégrer aussi au reste du jardin. Et puis après, ben, on a ces questions techniques qui veulent apparaître, où c'est qu'il faudra mettre en place une bâche de qualité, protéger la bâche par rapport au sol pour pas qu'on ait de déchirures possibles. Et après, on va étudier tout ce qui est au niveau des plantes, l'oxygénation, l'épuration de l'eau, et après créer un mouvement éventuel avec des cascades ou des jets.
Alors Fabrice, peut-être on va revenir au commencement. Par quoi un amateur de jardinage pourrait commencer pour avoir un étang dans son jardin ? Peut-être le choix de l'endroit dans son jardin, peut-être en priorité, non ?
Alors effectivement, si on place un étang dans un endroit bien exposé au soleil, ce qui va se passer, c'est qu'il y aurait une tendance à développer peut-être plus facilement des algues filamenteuses, des choses comme ça. Donc à partir de ce moment-là, si on le place dans un endroit un peu plus ombragé, on aura plus de facilité à contrôler ces choses-là aussi. Donc ça, c'est déjà une des premières choses, mais on n'a peut-être pas toujours le choix, suivant sa parcelle, de tenir compte de ces aléas-là. Et puis après, on est obligé de faire avec peut-être une exposition un peu plus directe. Mais on peut tricher un petit peu, peut-être en prenant des plantes comme le nénuphar, qui est quand même un classique, qui apparaît pratiquement dans tous les étangs, où c'est que cette zone d'ombre portée par le feuillage du nénuphar peut combler peut-être partiellement ou un petit peu en tout cas par rapport à cette exposition directe.
Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on met un étang, il faut une bâche. Alors justement, ce n'est pas simplement un trou, il faut... J'ai perdu le mot.
Pour l'étanchéité, la
voilà,
bâche.
Voilà, l'étanchéité, il faut rendre cet étang étanche. Alors qu'est-ce qu'on prend, une bâche simplement en plastique ?
Alors, on a des bâches qu'on utilise en PVC. On a différentes qualités. On a des 0,5 et puis des 1 mm. Et après, on a des bâches de meilleure qualité avec donc une meilleure longévité du produit qui sont en EPDM. Donc ça, c'est vraiment le top de la qualité pour les biotopes. Et puis là, on a des bâches qui font 1 mm, qui ont un pouvoir d'élasticité qui est nettement supérieur et une longévité du produit aussi qui est nettement supérieure par rapport à la bâche PVC.
Alors, on va aller encore plus loin dans cette déduction, parce qu'on parle de bâches, alors il y a des bâches spécialisées, mais pour le remplir justement cet étang, est-ce qu'on peut utiliser l'eau du réseau ou est-ce qu'il faut de l'eau de pluie ou quelque chose de particulier ?
Oui, ça c'est une bonne question parce qu'effectivement, si on a la possibilité d'avoir des récupérateurs d'eau, c'est qu'on peut remettre cette eau de pluie directement dans notre étang. On va y gagner par rapport à une petite vie qui s'est déjà installée au niveau des bactéries naturelles, toutes ces souches-là. Et puis ensuite, on va aussi s'abstenir de cet apport de chlore qu'on retrouve dans le réseau d'eau. Donc la récupération d'eau est bien plus importante et bien plus intéressante.
Merci Fabrice, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants. On va parler des plantes que vous nous conseillerez de mettre dans cet étang. Et puis bien sûr de l'entretien. On se retrouve dans quelques minutes.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Fabrice Rondet, on s'intéresse au biotope. Il y a quelques minutes, Fabrice, vous nous avez expliqué comment le construire. Et maintenant, on va passer à la décoration, si on peut l'appeler comme ça. Quelle plante y mettre, Fabrice ?
Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un maximum de diversité, mais réfléchi, on va dire. Parce qu'on a trois choses qu'on doit tenir compte, c'est l'épuration de l'eau, l'oxygénation, et après, on a la partie ornementale. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oxygéner l'eau pour justement travailler par rapport à ces algues filamenteuses, par rapport aussi à la faune qui va s'installer dedans. L'épuration, ben, c'est pour aussi travailler par rapport à la dégradation de tout ce qui est négatif dans le développement de l'eau, pour avoir un bon développement après au niveau des végétaux et puis de la faune de nouveau. Et après la partie ornementale, ben, c'est pour faire plaisir à notre œil. Au niveau de l'oxygénation aussi, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir réduire, ça c'est souvent le souci quand même des gens, on va pouvoir réduire un petit peu tout ce qui est déchets apportés par les feuilles pour pouvoir les minéraliser pour qu'elles puissent être absorbées par le reste des autres plantes. Donc de créer un juste équilibre entre tout ça est vraiment quelque chose de très important.
Mais Fabrice, vous parliez de la partie ornementale pour le plaisir de nos yeux, mais sans plantes, les animaux ne viendraient pas simplement dans une gouille d'eau en fait, hein.
Alors c'est très juste. Et puis là de nouveau, la diversité des plantes va avoir un impact direct sur ce qui va arriver dedans. On peut avoir des plantes flottantes qui vont permettre à certains animaux de se poser dessus. On peut avoir les nénuphars qui vont permettre aussi à des grenouilles de venir s'installer sur ces feuilles en surface. On va avoir des plantes érigées qui vont permettre à des libellules, à des demoiselles, des choses comme ça, de venir faire la parade, venir pondre les œufs, ou mettre leur mue en place. Et effectivement, toutes ces plantes vont permettre à une diversité des plus importantes et puis aussi nous régaler.
On peut aussi être plus imaginatif, hein, quand on a un biotope. On pourrait aménager une cascade, par exemple, ou des petits jets d'eau. On peut concilier comme ça nature et modernité ?
On peut le faire sans faute de goût, effectivement. Ce qu'il faut juste, c'est s'écouter, suivre son univers. Et puis après, avec ça, effectivement, on peut allier dans ce côté naturel d'un biotope en général qu'on recherche. On peut avoir des choses très modernes, très, très design, peut-être avec en travaillant des angles, des choses comme ça. Mais si on reste dans, dans le classique de l'étang, je pense, qui est le plus joli. On peut travailler avec des plans d'eau, agrémentés de cascades ou alors même de petits ruisseaux. On peut même imaginer de faire un petit ponton de bois qui s'avance juste en dessus du niveau d'eau. On peut faire des petites plages sur les bords. On peut faire mille et une choses qui peuvent donner beaucoup, beaucoup d'intérêt à juste ce plan d'eau qu'on aurait pu avoir au départ des plus simples.
Le samedi, entre 7h et 8h, nous parlons jardinage. Ce matin, notre spécialiste, celui qui répond à vos questions, c'est Fabrice Rondet, paysagiste et propriétaire de Fabrice Rondet, SARL à Port-en-Truy. Il vous reste une demi-heure pour poser vos questions.
Et trois possibilités pour les poser, ces questions. Vous pouvez le faire par téléphone, avec la chance de pouvoir directement parler à notre professionnel. Vous composez sans attendre le 09 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous avez comme deuxième option le SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question au 939. Et puis si vous souhaitez envoyer une photo, il faut aller sur le formulaire qui est disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions jardinières. On ne peut pas envoyer de photo par SMS.
Voilà, ni je par crois téléphone.
Ni par téléphone, c'est un peu plus compliqué.
Fabrice, nous avons parlé il y a quelques minutes des étangs. On va juste revenir encore pour quelques précisions. Peut-être commencer par l'entretien de cet étang. On y a mis des plantes, on a de l'eau, les petits animaux viennent. Comment est-ce qu'on entretient un étang tout au long de l'année ?
Alors l'entretien, déjà, c'est vrai que c'est la première des questions qui arrive en général quand on en parle, c'est ça donne beaucoup de boulot. Alors effectivement, un étang, s'il est réalisé correctement, en général, il ne donne pas beaucoup de travail, voire même quasiment pas. On va s'en occuper une fois par année au niveau de la taille pour toutes les sortes d'étangs qu'on va mettre en place. C'est rare qu'on fasse plus, ou alors ça veut dire qu'on a peut-être un mauvais équilibre qui a été mis au niveau des végétaux. Par rapport à des choix de variétés qui sont trop grandes par rapport à la grandeur de notre plan d'eau. Après, au niveau de l'étang lui-même, au niveau de l'eau, on peut s'occuper du traitement de l'eau avec juste une filtration. Cette filtration, si on la met en place, on aura régulièrement à nettoyer les filtres. Mais régulièrement, ça peut être selon aussi l'eau, comme elle se salit. Ça peut être une fois par semaine, si on veut faire les choses bien. Ça peut être une fois par mois. Ça dépend du système de pompe qu'on a acheté, parce que certaines personnes mettent des poissons dedans. Et là, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on doit avoir des pompes avec des systèmes de filtration beaucoup plus performants si on a du poisson rouge, du koï ou alors même de l'esturgeon pour certaines personnes, parce que ces poissons peuvent être très salisseurs. Et à ce niveau-là, un système de filtration doit vraiment être en adéquation, non pas seulement avec le volume d'eau qu'on a, mais aussi avec le type de poisson qu'on a dedans. Après, par rapport à ça, si on veut travailler avec des eaux plus claires, on peut travailler aussi avec des bactéries de souche naturelle, donc des choses complètement en adéquation avec le respect de l'environnement, où c'est qu'on peut avoir aussi un travail sur l'éclaircissement de l'eau et aussi sur le freinage en fait, des boues qui peuvent se créer par justement ces bactéries de souche naturelle qu'on peut apporter dans l'eau. Donc c'est tous des petits points ça qu'on peut mettre les uns derrière les autres pour qu'un plan d'eau reste avec des eaux vraiment claires, voire même très claires. J'ai un client là qui a quand même une filtration en place avec un étang de 4-5 mètres par 4 mètres à peu près. On peut compter les cailloux au fond de l'eau sans aucun apport de produits vraiment néfastes vis-à-vis de l'environnement. Donc il joue juste sur la filtration, il fait ses apports de bactéries de souche naturelle d'une façon régulière et son plan d'eau il est nickel. Donc c'est quelque chose vraiment qui est à la portée de tout le monde et qui n'est pas compliqué. Il faut juste avoir un bon équilibre entre le choix des végétaux, la grandeur, la partie ombragée, la filtration et c'est tout simple.
Et Fabrice, pour conclure sur ces biotopes et ces étangs, peut-être un mot quand même sur la loi. Est-ce que tout propriétaire de jardin peut aménager un étang chez lui ou est-ce qu'il y a des règles à suivre comme une barrière autour, la profondeur de l'étang ? Dites-nous en plus.
Alors à ce niveau-là, je ne crois pas qu'on ait vraiment des règles parce que je ne suis jamais tombé dessus en tout cas. Moi, j'en avais parlé, je me suis renseigné, j'ai regardé, consulté aussi. Ce qu'il y a, je pense que c'est juste un souci personnel par rapport à son voisinage. C'est vrai que si on a un étang qui va faire peut-être un mètre par deux puis qui descend à 30, 40 cm, voire 50, 60 cm, on ne va pas avoir la même approche que si on a un étang qui peut faire 10 mètres par 5, 6 mètres et puis qui peut descendre à 1 mètre, 1 mètre 1m20, voire même 2 mètres de profondeur pour certaines personnes. Donc on aura une approche complètement différente. Par rapport à ça, il est peut-être bien quand même, du fait que les lois elles diffèrent entre les communes, les cantons et puis la base de la Confédération, il est bien quand même de se renseigner et puis de voir. Après, on peut faire peut-être un petit clin d'œil aussi à la piscine naturelle, où c'est que là, on est toujours dans des biotopes, où c'est qu'on va toujours allier le côté naturel, mais on va mettre en place aussi la baignade. Donc là, les réglementations ne sont pas les mêmes. Donc il est bien de savoir le volume, la profondeur, puis de regarder avec son voisinage, puis d'être responsable.
Et de se renseigner auprès de sa commune, oui, si on a des questions. Merci beaucoup Fabrice pour tous ces renseignements sur les étangs et les biotopes. On va se retrouver juste après un titre et puis nous allons répondre aux questions reçues.
7h, 8h, les jardinières.
Et ce matin, c'est Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truc, qui répond à vos questions. Nous avons reçu une question de Christophe de Kourou qui nous parle de son abricotier. Un abricotier qu'il aimerait planter dans son jardin. Alors Fabrice, il a trois questions. Je vous les lis les trois et on va les reprendre une à une. Il aimerait savoir si on peut envisager de planter ce genre d'arbre dans notre région, donc à Kourou. Quelle est la meilleure période pour la plantation? Et puis au printemps, lorsque l'abricotier est en fleur, par quels moyens peut-on le protéger du gel? Alors on va reprendre dans l'ordre. Fabrice, est-ce qu'on peut planter un abricotier à Kourou?
Oui, sans problème. On en a plusieurs qui sont plantés dans toute la région. Et puis c'est une plante qui fonctionne bien, qui se plaît ici. Mais à savoir peut-être aussi, parce que ça c'est un petit peu moins courant chez nous, c'est que ce qui est par exemple pêche de vigne, serait plus adapté par en fait les terres que l'on a ici dans la région. Donc, mais pour ces deux cultures, donc il n'y a aucun problème, on peut mettre des abricotiers en place.
Et du coup, c'est quoi la meilleure période justement pour planter cet abricotier?
Alors ben, en général, on a déjà deux choses qui vont se présenter. On a des abricotiers qui sont à racines nues, puis des abricotiers qui sont en pot. Donc pour tout ce qui est à racines nues, la période ben, elle va être située de mi-octobre, fin octobre, à peu près à fin mars. Et puis après, pour tout ce qui est en pot, ben, on peut planter ça quasiment toute l'année en veillant juste à faire attention à la période où c'est qu'on est dans les heures chaudes pour apporter tout l'eau dont la plante a besoin. Si on voudrait faire une plantation en juin-juillet pour une particularité, un anniversaire ou quelque chose comme ça. Après, les périodes qu'on va éviter aussi sont peut-être les périodes où c'est que le terrain est gelé et puis où c'est qu'il est couvert de neige, parce que c'est pas très pratique non plus. Puis après, ça peut compromettre aussi l'enracinement si l'air circule entre l'air froid arrive jusqu'aux racines.
Et puis dernière question de Christophe concernant cet abricotier. Au printemps, lorsque l'abricotier est en fleur, par quels moyens peut-on le protéger du gel?
Alors là, on peut avoir des voiles d'hivernage, de protection, où c'est qu'on peut déployer par-dessus la plante. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même, c'est qu'une plante, quand elle est en fleur, ses bourgeons sont extrêmement fragiles. La moindre touchette, ils vont tomber. Donc, ce qui serait bien, quand la plante est petite, on peut faire un gabarit pour que le voile passe par-dessus sans toucher la plante. Après, il faut faire attention en la retirant aussi. Mais après, quand la plante va prendre des années et du volume, ça va être un peu plus délicat. Donc après, ça reste un petit peu de la gourmandise, un abricotier. Donc, on peut partir du principe aussi qu'être un petit peu moins exigeant, parce qu'on ne va pas travailler sur la rentabilité peut-être. Et puis, on va se dire, bon, ben, quand on a la chance que tout se passe bien, ben, voilà, on aura une petite récolte. Puis si, ma foi, on a un gel tardif, et ben, la récolte elle sera un peu cueillie partiellement ou plus sévèrement. Mais après, ça dépend justement de ce qu'on veut avoir, si on a le temps, si on peut bricoler quelque chose ou pas.
Merci beaucoup Fabrice, je vous propose d'enchaîner avec cette question de Dominique de Delémont. Bonjour, j'ai reçu ce laurier en mauvais état, que faire? Alors elle nous a joint une photo que vous avez également sous les yeux, mon cher Fabrice. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire Dominique?
Là, d'après la photo, moi je serais assez tenté de dire que c'est un laurier qui a... Bon déjà ce qu'il y a c'est que c'est un laurier du Portugal. Donc ce qu'on peut déjà dire c'est qu'on a une plante qui a pris le froid. Donc on a la plante qui est recourbée, les feuilles sont un petit peu aussi toutes courbées aussi. Donc elle a dû prendre tout simplement la neige ou le gel. Et puis du coup cette plante, elle devrait être à même de redémarrer un petit peu plus tard. Ce qu'il faudrait faire juste, c'est tailler un peu cette plante pour la regrouper et puis lui permettre de se reconstruire, de refaire une belle couronne. En faisant ça, malheureusement, ce qu'on risque de faire, c'est qu'on risque de compromettre un petit peu la floraison. Mais après, si on rapporte un peu du terreau, si on rapporte un petit peu de l'engrais, on peut redémarrer cette plante parce que bon, la photo est en noir et blanc. On ne voit pas si elle est bien verte, mais d'après la feuille, comme elle est posée, on peut deviner que la plante encore n'a pas été touchée au
Alors,
point de
Fabrice,
de sécher.
Moi, je l'ai en couleur sous ouais. les yeux. Alors, les feuilles recourbées sont un peu blanches. Il y a des feuilles qui sont un peu brunes quand même.
Mais le cœur de la plante, on dirait qu'elle est encore
un
belle.
Un peu brun quand même, le cœur.
Alors, ce qu'il faut, c'est en tout cas pas se dépêcher et dire « ma plante est fichue » et puis « je l'enlève, je l'évacue ». Des fois, la nature peut redémarrer, elle nous fait des belles surprises. Et puis, d'attendre un petit peu, peut-être sur avril, mi-avril, de voir s'il y a des bourgeons qui vont se réveiller, qu'on appelle des yeux dormants. Et puis, la plante, elle peut se reconstruire.
Fabrice, vous avez démarré en disant que c'était un laurier du Portugal. Est-ce que, comme les êtres humains, ils ont des nationalités selon les pays ? Quelles sont peut-être la différence, la particularité de celui du Portugal qu'on a justement sous les yeux ?
Alors, on a des plantes qui viennent de différentes régions. Par exemple, les lauriers, on a des plantes qui sont plus rustiques qu'on trouve dans nos haies à nous. On a différentes sortes, on a des grands, on a des plus petits comme l'autoricaine. Puis après, on a des lauriers qui sont plutôt de type méditerranéen. Après, on a le laurier aussi, le Rus nobilis qu'on peut utiliser par exemple pour la cuisine. Donc ouais, effectivement, selon l'obtention, on a des régions où c'est que les végétaux se sont un petit peu différenciés et puis où c'est qu'ils sont plus adaptés par rapport à l'altitude et puis le climat qu'on y a.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, avec vous encore pendant quelques minutes. Nous avons reçu, Fabrice, une question de Sophie de Cortaillot qui nous parle de son magnolia, un magnolia soulangian qui a été planté récemment dans son mini-jardin. Elle aimerait savoir comment bien en prendre soin, quoi faire. Elle nous a joint une photo de son magnolia planté avec à l'arrière des lauriers.
Alors, pour la région de plantation, donc ça pose pas de problème au niveau de la rusticité et tout ça. Donc ça joue. Après, ce que j'ai du mal de me rendre compte, moi, c'est la grandeur du jardin. Parce que ce que je peux voir d'après la photo, c'est qu'effectivement, elle doit pas avoir beaucoup de place, malheureusement, parce que la petite haie qu'elle a derrière et le laurier le Magnolia soulangiana est planté vraiment au pied de cette haie. Donc ce qui est un petit peu dommage, parce que le Magnolia soulangiana, c'est quand même une plante qui aura un développement, on va dire, assez conséquent. Donc si elle aime vraiment ses plantes, je pense qu'elle aimerait le voir se développer un petit peu pour qu'il apporte un maximum de féerie dans son jardin avec ses belles floraisons qu'il peut offrir. Après, par rapport à ça, si elle a de la place quand même un petit peu plus qu'on peut l'apercevoir sur la photo, elle pourrait peut-être le décaler à 2 mètres de cette haie, si c'est possible. Autrement, il y a une autre possibilité aussi, peut-être, c'est d'utiliser une autre variété, une autre espèce de magnolia, qui est le Magnolia stellata, qui fait une fleur un peu plus gracile, un peu plus petite, un peu moins spectaculaire pour certains que le soulangiana, mais on a un contrôle de la plante au niveau de son développement adulte qui est beaucoup plus facile à maîtriser. Donc ce soulangiana qu'elle a maintenant, on peut en faire quelque chose d'assez joli, mais on aura un équilibre à créer entre cette plante là, le magnolia, et la haie de laurier qu'elle a derrière.
Si,
donc là, il y a un équilibre à faire attention.
Excusez-moi Fabrice,
si
comme Sophie, on a une plante qui risque de prendre trop de place dans un mini-jardin, puisqu'elle le précise très bien dans son message que c'est un mini-jardin, est-ce qu'elle a la possibilité de ressortir ce magnolia et d'éventuellement peut-être d'aller le mettre chez le voisin, si on a des voisins, ou peut-être
s'il est d'accord.
Ou dans un jardin séparé. On voit souvent dans les grandes villes qu'il y a des parties de jardin pour les gens justement qui n'ont pas d'extérieur. Est-ce que ce magnolia est déplaçable?
Alors, on a plusieurs alternatives. On a déjà celle que vous venez de dire. Si on se rend compte de ça, on peut étudier un petit peu peut-être la famille des magnolias pour s'apercevoir qu'on a différentes grandeurs qui nous sont offertes selon les variétés. Et puis, par rapport à ça, bah, après, on peut faire cadeau de la plante à quelqu'un. Après, on a la possibilité aussi peut-être de le décaler un petit peu et puis de faire attention à pratiquer une taille régulière et juste pour qu'on ait une jolie plante, mais pas qui se développe qu'en feuilles, mais aussi pour favoriser un développement de fleurs, de boutons floraux. Donc là, bah, il faut une certaine connaissance de ces plantes. Et puis après, autrement, on peut tout simplement compromettre un petit peu les choses et puis admettre un petit peu qu'on n'aura pas une floraison aussi spectaculaire que sur un arbre qu'on pourra laisser s'épanouir librement puis former ses boutons aussi librement.
Merci beaucoup. Fabrice, nous avons reçu encore une question que nous prendrons en priorité la semaine prochaine. Donc Nelly, si vous nous écoutez, branchez-vous samedi prochain pour qu'on ait le temps tranquillement de répondre à votre question. En première partie d'émission, nous avons parlé d'étang en compagnie de Fabrice. Si le sujet vous intéresse, vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur la page des jardinières. Et il est déjà presque l'heure de se quitter, mais avant de laisser filer Fabrice, c'est aujourd'hui que le printemps débute. Que doit faire le jardinier pour anticiper les beaux jours ?
Alors maintenant, on sera dans une partie de réflexion par rapport au développement du jardin potager. Donc on va savoir ce qu'on va planter dedans si on achète. Et puis si on pratique nous-mêmes les plantons, le développement, on va donc faire ses semis, les repiquages, toutes ces choses-là. Après, on va aussi avoir une réflexion qu'on peut porter, comme on l'a vu en première partie, si on veut mettre en place un biotope, bien se documenter, voir les plantes qu'on doit utiliser pour avoir un bon équilibre au niveau de cette biodiversité. Après, on va terminer les tailles au niveau des végétaux ornementaux et fruitiers, les petits fruits aussi, bien sûr, toutes ces choses-là. On va aussi préparer gentiment nos plates-bandes. Et puis après, ce qu'on peut faire, c'est toujours se remettre en question et puis regarder pour éventuellement changer une ou deux choses dans des massifs, dans des plates-bandes ou en arbres isolés pour redonner un coup de jeûne dans ce jardin et puis casser cette monotonie si on a des choses qu'on se lasse un petit peu.
Fabrice, on rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Fabrice Rondet SARL à Porrentruy. Merci encore d'avoir été en notre compagnie ce matin. Bon début de printemps à vous et on vous dit à très bientôt.
Alors, une bonne journée à tous et un bon week-end.
Merci Fabrice. Les jardinières seront de retour samedi prochain en compagnie de Jean-Pierre Rivaud, paysagiste à Queuve. À samedi prochain, Raphaël.
Mais également Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous. Et
salut.
Prenez soin de vous.
Les jardinières.